En fait, ce matin, le message, on continue dans notre série sur la croix, et j'aimerais intituler un peu ce message-là « Une mort qui parle fort ». Une mort qui parle fort. Habituellement, quand on meurt, on ne parle pas fort. Mais vous savez que des fois, en anglais, on dit « Action speaks louder than words ». Ça veut dire que nos actions parlent plus fort que parfois nos propres mots. Ça va? Vous comprenez ça? C'est bien. Et puis, justement, des fois, dans nos relations les uns avec les autres, notre silence va parler plus fort que des mots. Un geste de bienveillance parle souvent, ça parle souvent plus fort que même des paroles. Un visage en colère va parler plus fort que des mots. Ouais? Là, vous essayez de voir si je vais faire une face de colère, voir si j'ai l'air si méchant que ça. Non. Ah, oubliez ça. Je ne fais pas ça ce matin. Et je vous donne cet exemple-là. En fait, c'est une personne de l'Assemblée que lorsqu'on a prêché sur la croix, la semaine d'après, il m'a donné ça. Et il n'a pas dit un mot tant que ça, à part que ça, c'est pour toi. Je l'ai fait. Puis, à quelque part, encore une fois, actions speak louder than words. Les actions parlent plus fort que des mots. Et ça, ce que ça me disait, c'est que même s'il ne l'a pas dit, bien, il y avait quelque chose dans l'explication de la croix, dans la compréhension de la croix, qui l'inspirait à faire un petit quelque chose comme ça pour nous. Fait que, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ça. Et puis, je vais peut-être l'utiliser tantôt. Là. On va voir si j'ai le temps de l'utiliser pour d'autres choses. De la même façon, la croix, je le crois. Bon, c'est croix avec un X. La croix avec un X, je le crois avec un S. Je crois que la croix parle tellement fort. Tellement, tellement plus fort que même les mots que Jésus a pu utiliser. Et puis, on va voir ensemble de c'est quoi le message qui parle fort quand on regarde la croix. Et la première chose, on va dans le vif du sujet ce matin. Ça vous va? Bon, de toute façon, vous me connaissez, vous savez qu'habituellement, je ne tourne pas autour du pot trop longtemps. La croix parle fort du problème du péché. La croix parle très fort du problème du péché parce que si le péché n'existe pas, la croix n'est pas importante. Si le péché n'existe pas, il n'y a aucune notion de jugement où tantôt qu'on parlait, Christ est la lumière du monde, tu es saint, il est saint, c'est-à-dire qu'il est sans péché, il est parfait. Mais si le péché n'existe pas, ce n'est pas une caractéristique particulière. Si le péché n'est pas un problème, Dieu ne dirait pas non plus qu'il le déteste. Si le péché n'était pas un problème, on n'aurait probablement pas lu dans notre Bible des sacrifices dans l'Ancien Testament pour justement purifier la conscience, purifier le cœur des Juifs. Si le péché n'était pas un problème, de quoi serait-on sauvé? Bon, question comme ça, mais je vais essayer ce matin de vous expliquer ça pour que vous compreniez à quel point la croix parle fort non seulement du problème du péché, mais également que Dieu est saint et que Dieu nous aime. Mais je reviens à la croix qui parle fort du problème du péché. Si le péché est un problème réel pour Dieu, au point qu'il va venir sur la croix, ben j'ai un gros problème. Ou l'être humain a un gros problème. Parce que comment est-ce que je peux m'approcher d'un Dieu qui est saint, qui est parfait, qui est sans péché? Puis quand on regarde honnêtement notre vie, on fait comme moi. Ouais, c'est pas de même. C'est pas la même perfection. C'est pas la même sainteté. C'est pas le même. C'est ça, hein? Il y a une expression en québécois, les sportifs disent « on ne joue pas dans la même ligue ». Là. C'est comme si on n'est pas, au même niveau, on n'est pas à la même place du tout. Puis la réalité, c'est que par moi-même, je suis incapable de plaire à Dieu. Je suis incapable de réparer ma rébellion. Je suis incapable de m'approcher même. Je suis coupable et donc inexcusable. Puis là, vous dites « hey, c'est raide à matin ». Bon, on va regarder un passage ensemble, puis vous allez voir, on va à quelque part, OK? Romains 1. J'espère ne pas l'avoir. Bon, c'est bien ça. J'ai fait mes devoirs. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. En d'autres mots, tout péché. Des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Là, tu fais comme « waouh ». Soit la statique a pogné dans le plafond. À la maison, vous ne savez pas de quoi je parle, mais ce n'est pas grave. Non seulement je suis indigne de m'approcher, mais je suis coupable du péché, je suis ennemi de Dieu, hostile à Dieu. On parle même de révolte. Dans Romains 8, ça va le dire de la façon suivante. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Puis là, vous avez remarqué que je parle au présent. Bon, je travaille les verbes avec mes enfants à l'école, tout ça. Puis, si on travaille les verbes, c'est parce que c'est important, les verbes. Puis là, je suis en train de dire, je suis hostile à Dieu, je suis coupable, je suis inexcusable, je suis rebelle, je suis hostile à Dieu. Et je le dis au temps présent et j'ai fait exprès. Parce qu'il y a une réalité. C'est ceux qui sont rachetés par Jésus peuvent dire ces choses au passé, à l'imparfait, l'indicatif imparfait. Ça, c'est mon travail avec un des miens, là, une des miennes. Mais on peut dire justement, j'étais indigne, j'étais coupable, j'étais rebelle, j'étais hostile. Et je suis capable de dire ça au passé. Pourquoi? À cause de la croix de Christ. À cause de la croix de Jésus. Parce que lui a payé ce prix, et il a renversé cette culpabilité qui émanait de mon être naturel, de ma propre nature. Et Romains, le passage juste après celui qu'on vient de lire, le verset 9, Romains 8, verset 9, ça dit « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre propre nature, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alors, hein, on peut dire ces choses-là au passé. Merci Seigneur. Mais le fait de les connaître nous permet d'apprécier, de contempler, de savourer l'œuvre à la croix, parce que franchement, si ce n'était pas de ça, on serait encore dans l'indicatif présent. On serait encore dans le présent et non dans le passé. Puis peut-être avouez comme moi que ça fait un peu mal d'entendre ça. Hein? Je ne sais pas pourquoi ça... Tu sais, ça... Il n'y a pas de genre chair de poule, genre « wow, c'est incroyable ce que le pasteur vient de dire ». Non, pas de papillon comme ça. Ça vient nous chercher parce que c'est comme ça fait mal, parce que notre société va nous dire et nous a enseigné depuis toujours, « Hey, t'as tout en toi, ce que tu penses, c'est vérité. T'es une bonne personne. Fait que si tu fais de ton mieux, tout est beau. » Puis là, on entend ça, puis ça vient confronter de façon directe ce genre de discours-là. L'Évangile nous dit, ta nature humaine te rend coupable et rebelle à Dieu, tu as vraiment besoin d'aide. Puis ce même évangile-là va dire d'autres choses aussi, que quelqu'un qui connaît toute notre culpabilité et qui t'aime assez pour t'aider. Vous savez, dans le mariage, c'est un peu la même chose. Hein? Lorsqu'on ne connaît pas trop l'autre personne, on est comme, ah ben hey, c'est la personne l'idéal, parfaite. Le vrai mariage, c'est d'aimer l'autre quand on connaît ses défauts. Ça va? Je sais qu'ici, personne n'a fait cette expérience-là, évidemment. Hein? Tout le monde est parfait dans le meilleur des mondes. Mais l'amour, c'est pas d'aimer sans connaître. L'amour, c'est d'aimer malgré qu'on connaît. Ça va? Bien, c'est la même chose avec l'Évangile. L'Évangile, c'est que Dieu nous aime, bien qu'il connaisse profondément le péché qui nous habite, la nature humaine dans laquelle nous sommes. Bon, on va démystifier un petit peu le mot péché. Peut-être que certains disent, OK, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire péché? C'est-tu juste quand je m'accroche le bord de pied sur la commode en pleine nuit, puis que là, il y a des mots hautement spirituels, mais peu adaptés à mon langage chrétien qui émanent de ma bouche? Ça peut être une définition, mais elle est très étroite. Hein? Le mot en grec, péché, ça veut dire manquer la cible. Manquer la cible. Mais à cause de notre société individualiste, ce manquer la cible, parfois, nous amène d'une mauvaise voie. Pourquoi? Parce que c'est comme si on dit qu'on manque la cible par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire, ah ben là, ah, j'ai pas fait ce que je voulais vraiment faire, j'ai manqué la cible. J'ai manqué la cible de mes standards, de mes valeurs, de ce que je voulais faire. J'ai pas atteint mon objectif. Et tout ça, c'est manquer la cible, n'est-ce pas? Mais le seul problème avec tout ça, c'est que lorsqu'on on l'applique uniquement à nous-mêmes, c'est qu'on est en train de dire « Ah, ben j'ai péché parce que j'ai manqué à moi-même. » Alors que la réalité, c'est que manquer la cible, c'est pas manquer la cible par rapport à soi-même. Manquer la cible, c'est une transgression, ça se commet à l'égard de Dieu. Je pêche non parce que je pêche contre moi-même, je pêche parce que je transgresse la loi de Dieu, parce que je vais à l'encontre de ce que Dieu veut vraiment pour ma vie. Bien que, lorsqu'on pêche, il y a parfois qu'on vit nous-mêmes les conséquences de nos mauvais choix. Je ne dis pas qu'on ne vit pas les conséquences, mais je fais juste dire que l'offense n'est pas juste à nous, envers nous-mêmes. L'offense, elle est envers Dieu. C'est une injustice envers Dieu. C'est un mal, une méchanceté selon Dieu, une incapacité à atteindre la loi de Dieu. Et puis, c'est pour ça que manquer la cible, c'est une excellente définition. Il ne faut juste pas l'appliquer juste à nous-mêmes. Il faut savoir qu'on manque la cible par rapport au standard de Dieu, à ce que Dieu veut. Il y a le théologien Émile Brunner, on ne l'a pas à l'écran, mais il va dire la chose suivante, il va dire « Le péché, c'est de la défiance, une arrogance, le désir d'être égal à Dieu, l'affirmation de l'indépendance humaine face à Dieu, la constitution d'une raison, d'une morale et d'une culture autonome sans Dieu. » Intéressant aussi, ça apporte un autre angle. Alors, la croix parle très fort du problème du péché. Mais elle va parler très fort aussi de la sainteté de Dieu. Parce que finalement, si on fait le comparatif entre moi, là, je vais le mettre à mon égard pour que vous ne vous sentiez pas visé, puis Dieu, il y a comme quelque chose qui est différent. Qu'est-ce qui est différent? Ben Dieu est complètement parfait, il est saint. Moi, je ne le suis pas du tout. Ça va? Dieu est pleinement amour. De mon côté, ma nature tend vers quoi? Pas l'amour, tend vers la rébellion, tend vers la haine envers Dieu même. Là, on parle de notre ancienne nature, hein? Dieu est le Créateur. Et peut-être que ça va déplaire à certains, mais moi, je ne suis que la créature. Ça va? Dieu a fait don de soi. Il a dit, crucifiez-moi. De mon côté, je suis dans l'égoïsme. Moi, je déclare, crucifie-le. Est-ce que vous voyez la différence entre nos deux spécimens de personnes? Vous comprenez un petit peu qu'on n'est pas dans le même univers. Oui, on est dans le même univers, si on parle de l'univers, mais on n'est pas dans la même ligue, comme je vous disais tout à l'heure. Hein? Vous vous rappelez de cette expression-là? Et à la croix, on comprend que Dieu efface le fossé qui nous sépare, parce que honnêtement, il y a un fossé, il y a une distance. Et il efface ce fossé-là en détruisant la puissance du péché. Alors, je vais vous poser une question. Question qui va comme suit. Comment est-ce qu'un Dieu saint, parfait, peut exprimer son amour sans compromettre sa sainteté? Là, je vais la poser en version parent-d'enfant, OK? Pour ceux qui en ont déjà eu ou qui ont déjà vu des parents à l'œuvre. Ça ressemble à une question que je dirais comme ceci. Comment je peux être un parent qui exprime tout l'amour pour mon enfant sans nécessairement négliger de discipliner celui-ci dans la façon dont il peut agir? Je répète ma question au sens de Dieu. Comment un Dieu saint peut-il exprimer son amour sans compromettre sa sainteté, le fait qu'il n'aime pas le péché? Là, vous avez peut-être des trucs avec vos enfants. Peut-être que c'est dur à trouver. Ça dépend de ce qu'ils font, hein? Il y a des affaires plus faciles que d'autres. Mais comment est-ce qu'un Dieu peut exprimer l'amour sans compromettre qui il est? Parce qu'il est pleinement amour et il est à la fois pleinement saint, pleinement parfait. Alors, j'ai essayé de réfléchir à quelles étaient les options. Je me suis mis un instant dans la peau de Dieu. Pas parce que je suis très bon pour être dans la peau de Dieu, c'est pas ce que je dis. Mais j'ai essayé de voir comment est-ce qu'on peut répondre à cette question-là et j'ai trouvé deux moyens. Le premier moyen, c'est soit qu'il devient pécheur comme nous. Le deuxième moyen, c'est soit il nous transforme pour qu'on soit pur comme lui. Deux façons. Premièrement, soit il devient pécheur comme nous. Ou deuxièmement, soit il nous transforme pour qu'on soit pur comme lui. Et vous savez qu'est-ce que je choisis comme option? La deuxième, évidemment. Il a choisi la deuxième. Mais c'est à la croix que l'aide de Dieu se manifeste dans toute sa splendeur et qu'il y a à la fois l'amour et à la fois la sainteté de Dieu qui se rassemblent dans le même événement. Et je vais vous partager une citation de John Stott que j'ai trouvée fort intéressante et qui va comme suit. Je pense qu'on l'a à l'écran. Sur la croix. Ah oui, génial. Sur la croix, dans un amour saint, Dieu, par l'intermédiaire du Christ, a payé lui-même toute la peine de notre désobéissance. Il a porté le jugement que nous méritions afin de nous apporter le pardon que nous ne méritions pas. Amen. Sur la croix, la miséricorde et la justice divine se sont exprimées de manière égale et ont été éternellement réconciliés. La sainteté de Dieu et son amour. L'amour saint de Dieu a été satisfait. Et là, il y a cette idée que le caractère de Dieu a été pleinement déployé, honoré, respecté, autant dans son amour que sa sainteté. Amen. Là, je vous amène peut-être en territoire un petit peu plus théologique qu'à l'habitude. J'essaie de l'expliquer du mieux possible, OK? Mais si je résume, je fais un récapitulatif pour essayer de comprendre, c'est qu'on a péché et c'est pas une bonne nouvelle parce que Dieu ne peut pas supporter le péché. Ça fait partie du fait qu'il est saint. Lui qui est parfait est sans péché. Et la loi divine nous apprend que tout péché mérite un jugement et que Dieu est le péché. Fait que l'idée, c'est que c'est comme avec nos enfants. On sait que s'il y a une mauvaise action, il faut qu'il y ait une conséquence. Mais en même temps, on veut juste pas faire juste la conséquence, mais on veut être dans l'amour, l'amour plein, mais également la considération que ce que tu fais est important aussi. Comprenez un petit peu? J'essaie de faire des liens pour qu'on puisse bien comprendre. Mais ce qui se passe, c'est que en portant nos péchés sur ses épaules, Jésus a fait l'expiation de nos péchés, c'est-à-dire il a enduré la conséquence du péché pour couvrir le péché. Il a racheté notre faute. Et là, écoutez bien ceci. En faisant ça, il a détourné la colère de Dieu. Il a détourné la colère de Dieu qui était sur nous en nous permettant que tous ceux qui allaient croire en Jésus ne subissent pas ce jugement, cette colère, mais qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Jean 3, 36 va le dire de la façon suivante. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Alors, il y a vraiment cette idée que la croix nous permet que la colère de Dieu ne soit plus sur nous. Puis là, vous dites, la colère de Dieu, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Bon, rappelez-vous, Dieu est parfait. Ça va? C'est important. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui étaient en colère et qui perdent toute capacité cervicale? Qui l'échappent complètement? C'est comme la colère fait en sorte qu'il n'y a plus de réflexion, puis même des fois, on ne voit plus les yeux tellement qu'ils sont en maudit, là, tellement qu'ils sont en colère. Mais des fois, on parle de la colère de Dieu, puis on imagine que c'est ça. Quelqu'un qui perd le contrôle, quelqu'un qui l'échappe complètement, quelqu'un qui n'est plus capable de réfléchir. Alors que ce n'est certainement pas de ça dont il est question ici. Vous comprenez que Dieu est parfait. Tout ce qu'il fait est parfait. Si quelqu'un est en voiture, a pris trop d'alcool et fonce dans l'un de mes enfants, le blessant complètement, je ne peux pas dire que je suis dans l'amour complet. Si je ne suis pas en colère, je ne suis vraiment pas dans l'amour. Est-ce que vous comprenez? Non, parce que c'est terrible. Maintenant, si je décide de sortir le bâton de baseball qui est dans ma voiture puis taper l'autre voiture en signe de représailles, là, j'ai perdu toute capacité de réfléchir. Ça ne donne absolument rien. Mais si dans mon cœur, il y a une colère contre l'événement qui vient de se produire, honnêtement, j'aimerais dire que c'est sain. J'aimerais dire que c'est normal. Parce que, mon enfant qui vient d'être fauché, c'est parce que je l'aime pour vrai. Comprenez un peu ce que j'essaie de dire? Avec l'idée de la colère, c'est pas une idée comme humaine de que Dieu qui perd complètement le contrôle. Non, pas du tout. Mais pour chaque action, on se rend compte, pour chaque péché, la conséquence du péché, il y en a une, hein? L'Écriture va nous dire que c'est la mort. OK, donc je vous partage un autre passage qui parle de l'amour, mais cet amour-là qui nous sauve de la colère, dans Romains 5, versets 8 et 9. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, l'idée d'être juste, l'idée d'être parfait comme Jésus l'est, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Alors, ce qu'on comprend, c'est que l'exercice de la croix, l'événement de la croix, n'est pas là juste comme un pur hasard, n'est pas dans un sens juste, « Ah ben, il fallait que je leur prouve quelque chose, fait que j'ai été à la croix. » Non, il y a quelque chose de très significatif du pourquoi Dieu est allé à la croix. Et finalement, en d'autres termes, Dieu ne peut pas être insensible au péché, puis le seul moyen par lequel on peut s'approcher de Dieu est que cette colère soit couverte, et pas par n'importe quel moyen. Il y a un moyen précis pour que cette colère-là ne nous atteigne pas, ce jugement-là. Et là, je vous amène à comprendre à quel point Jésus a accompli la loi de l'Ancien Testament. Comment son sacrifice était déjà prévu depuis longtemps. Et peut-être vous dites des fois, hey, ben là, pourquoi est-ce qu'on lit l'Ancien Testament? T'sais, il me semble que le Nouveau, c'est bien meilleur. T'sais, il me semble que c'est le fun. Hein? Mais l'Ancien Testament, Ben, en fait, l'Ancien Testament est en train de nous faire comprendre à quel point Jésus accomplit toute la loi, à quel point Jésus accomplit tout ce qui est dans l'Ancien. Puis, je vous fais une petite image, OK? Parce que dans l'Ancienne Alliance avec Moïse, et ça, c'est donné après que le peuple sorte d'un esclavage d'Égypte de plus de 400 ans, Dieu fait une grâce à Israël. Il leur fait un cadeau. Là, ceux qui sont un peu sensibles à tuer un animal, vous n'aimerez pas la suite, OK? Mais Dieu fait une grâce, celle d'offrir de la viande à tout le monde. Non, OK. Il met en place un système de sacrifice d'animaux. Et puis là, ainsi, ce qui se passe, c'est qu'un homme, alors qu'il reconnaît qu'il a péché, il a l'opportunité d'amener un bouc, un agneau ou un bœuf, en tout cas un taureau. Et c'est important que celui-ci soit complètement sans défaut. Il faut qu'il soit parfait. Okay? Il ne peut pas avoir une patte cassée, il ne peut pas avoir de choses qui le rendraient imparfait. Il faut qu'il soit parfait. Et puis l'homme, en symbole de repentance, va amener cet animal-là que lui-même a acheté. Il va l'amener au prêtre. Okay? Et puis là, l'animal se tient. Lui, il ne sait pas trop ce qui va se passer. Ben, peut-être s'il a vu deux, trois avant lui, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Fait que l'animal se tient et le propriétaire n'est pas loin. En fait, il n'est pas loin, il est très proche. Et ce qu'on apprend, c'est que la personne humaine va placer sa main sur la tête de l'animal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que ce qui est en train d'arriver à l'animal, c'était moi, là. Tu sais, c'était moi qui étais supposé. Fait que ce qui se passe, il place la main sur l'animal. Et pendant que la main sur la tête, c'est là que l'animal est égorgé. Oh, OK. Alors, il y a cette idée-là déjà bien avant que finalement la conséquence du péché n'était pas juste « Ah, mulligan pour les joueurs de golf » ou « Ah, free pass ». Mais la vraie conséquence était la mort, la mort. Et puis, et finalement, ben, le geste du sacrificateur ou du prêtre montre que le péché qui avait été commis méritait cette même mort-là parce que l'animal subit la conséquence. Et le prêtre va répandre le sang sur l'autel. Puis là, ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Tu sais, nous autres, le sang, ben, on donne du sang, on mange nos steaks saignants. Tu sais, on n'est pas... T'sais, on n'a pas une aversion pour le sang, quoi qu'il y en a qui voient du sang et ils tombent sur la connaissance. Là, ils perdent toute faculté. Mais si on regarde dans Lévitique, on va voir un petit peu, un peu la mentalité de comment les Juifs voient le sang. Et c'est l'idée que, je lis Lévitique 17, verset 11, « En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Et le sang, c'est comme la confirmation que l'animal est vraiment mort. C'est comme la confirmation que la peine a été purgée, finalement. Alors, c'est comme si Dieu fait une grâce, puis là, vous dites, « Ouais, ben une grâce, là, pauvre animaux. » Dans la création, Dieu a donné de dominer sur les animaux. Ça ne veut pas dire d'être cruel, mais de dominer sur eux, OK? Rien de nouveau sous le soleil. L'homme ou la femme avait donc expier sa propre faute par un sacrifice. Et là, on dit, ouais, mais comment est-ce qu'un animal qui est tué peut vraiment me pardonner, tu sais? Puis c'est là que tout s'accomplit en Jésus. C'est là que quelque chose d'imparfait devient parfait. Quelque chose qui était l'ombre des choses à venir devient complètement accompli par l'œuvre à la croix. Alors, on lit dans Hébreux 10, je vous mets quelques passages. Hébreux 10, 1, ça veut dire « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection de ceux qui y participent. » Versets 3 et 4, « Mais en réalité, le souvenir du péché est rappelé chaque année par ses sacrifices. » Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève leur péché. Et c'est comme si Dieu fait une grâce au peuple que le fait d'avoir à faire ces sacrifices-là, même de façon ponctuelle, ça leur rappelle leur position qu'ils l'échappent des fois, qu'ils sont pécheurs. Et ça les ramène à se rappeler qu'ils ont besoin de Dieu pour les purifier. Et versets 11 et 12, « Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. » Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. La seule façon que le péché pouvait être complètement effacé, la seule façon que le jugement de Dieu pouvait être détourné, la seule façon d'accomplir un sacrifice qui était suffisant, était que ce soit une personne qui n'avait jamais péché qui soit offerte en sacrifice, comme cet animal qui était sans aucun défaut. Et là, on peut faire la liste. Okay? Vous pouvez prendre votre carnet et essayer de trouver sur Google « Liste des personnes n'ayant jamais péché de toute leur vie ». Faites-le. Si vous trouvez la photo d'un miroir, ce n'est pas un vrai site web. OK? Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que la seule personne qui était qualifiée pour être un sacrifice parfait sans aucun péché, c'était Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'était très, 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 très important que dans sa mission sur terre, Jésus demeure sans péché. Pourquoi le diable voulait-il le tenter? Est-ce qu'il voulait juste avoir le pouvoir sur lui? Si ça marchait, le sacrifice n'était pas complet. Est-ce que vous comprenez un petit peu? L'idée que Jésus a eu besoin de garder sa pureté, de garder sa sainteté pour que ce sacrifice-là soit suffisant, soit satisfaisant. Voilà, c'est un drôle de terme, hein? L'importance qui a été jusqu'au bout, parfait. Et là, on dit, ah oui, mais il y a eu les tentations avec le diable dans le désert. C'est une chose. Mais si vous vous rappelez du premier message avec Judas qui livre Jésus aux prêtres, les prêtres qui livrent Jésus à Pilate, Pilate qui livre Jésus aux Romains, les Romains qui le crucifient, bien, à travers ces événements-là, je peux vous dire que la tentation était forte. Quand Jésus est dans le jardin de Gethsémané, et qui sue des grumeaux de sang tellement la pression est là, va dire que ta volonté soit faite, non la mienne. On voit l'importance de Jésus qui a besoin de rester pur jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Hébreux 2, 17 va dire la chose suivante. Je pense que c'est l'autre diapo. Merci. Par conséquent, Jésus devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Jean 3, 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, ce qu'on comprend, là, quand je dis que la croix parle fort, c'est que si le péché dit, ça vaut rien, que ça, c'est pas bon, jamais Jésus a besoin d'aller jusque-là. Vous comprenez? Il y avait quelque chose qui était nécessaire. Et à la croix, Jésus est mort pour les péchés. C'est à cause du péché qu'il a dû mourir sur la croix. C'est qu'il a porté la colère de Dieu sur ses épaules. Il a détourné cette colère-là qui était sur nous. Tu sais, des fois, on a chanté, je pense, la semaine dernière, « Digne est l'agneau assis sur le trône ». Mais des fois, peut-être vous êtes ici, vous dites, « Ça fait pas longtemps que je viens à l'église. » Tu peux me dire pourquoi qu'on appelle Jésus l'agneau? Bien, parce qu'il a été justement ce sacrifice parfait comme un agneau sans tache. Alors, quand on fait ça, c'est un jargon chrétien que finalement, vous iriez dans la rue, « Digne l'agneau! » Puis il dirait « Ah oui, il y a un barbecue! » Mais ici, ce qu'on comprend, c'est qu'à la croix, Jésus s'est offert comme ce sacrifice parfait-là, sans péché. Jésus qui, à la croix, a accompli pleinement la loi de Dieu. La croix parle très fort du problème du péché. Elle parle très fort de la sainteté de Dieu et l'importance que ceux qui s'approchent de lui soient sanctifiés. Là, maintenant, vous dites, OK, là, ça veut-tu dire que si j'accroche mon meuble en pleine nuit, que je me mets à parler une langue spirituelle qui n'en est pas une, la colère de Dieu est sur moi? Est-ce que c'est ce que je suis en train de dire? Non. Parce que Jésus a payé pour nos péchés avant, après et pendant. Comprenez? On est lavé, on est purifié. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire n'importe quoi? Alors, si vous lisez l'Écriture, vous allez comprendre aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une question de jour après jour. Hé, là, la colère de Dieu est sur moi. OK, la colère de Dieu est sur moi. Pas du tout. On appelle ça justement cette idée-là que la croix de Dieu nous justifie. Elle nous lave, ce qui fait en sorte que vous vous rappelez des deux options? Soit que Jésus devient pécheur comme nous, ou soit qu'il nous transforme pour qu'on devienne parfait comme lui. C'est l'œuvre à la croix, ça. C'est cette œuvre du péché qui est expié une fois pour toutes. Alors, j'espère que vous comprenez cette partie-là, puis je vous amène ailleurs dans quelques instants, OK? Parce que là, la croix, on peut l'imager de différentes façons. Et la première image, c'est justement cette image du culte, de l'autel, du sacrifice, du sanctuaire. Ça, c'est cette espèce d'image-là qui nous fait comprendre que le sacrifice à la croix n'était pas juste un acte comme ça au hasard, mais était nécessaire pour accomplir la loi de Dieu et nécessaire pour que chacun de nous, on puisse être assez pur pour s'approcher du Dieu qui est parfait. Ça va? On se transfère dans une autre image maintenant. On va se transférer dans une image du monde des affaires, des coûts, une transaction. Vous dites, la croix de Dieu dans le monde des affaires? Dans l'image du sanctuaire qu'on vient de voir, Christ est mort pour le péché. Dans l'image du monde des affaires qu'on va regarder ensemble, Christ est mort pour nous. Si l'image du sanctuaire nous révèle plus précisément la sainteté de Dieu, l'image du monde des affaires va nous révéler plus précisément l'amour de Dieu. Ça va? Excellent. Cette image-là, on va utiliser un terme qu'on utilise un petit peu moins dans notre vocabulaire, l'idée de la rédemption. L'idée que on a été racheté. Racheté, ça parle d'argent, ça parle d'un coût, ça parle d'une transaction. Si on rachète quelque chose, il y a une transaction. Vous comprenez pourquoi on s'en va dans l'image du monde des affaires? Et Marc 10 va dire la chose suivante à l'écran, verset 45. « En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » On voit aussi dans 1 Timothée 2, versets 5 et 6. « En effet, il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Alors, de quoi on parle ici? C'est quoi l'image? Bien, l'image est la suivante. L'image, c'est que l'être humain est en captivité, comme pris en otage par le péché. La façon de le libérer de cet otage est de payer le prix de la rançon. Et il faut croire que nos vies ont beaucoup de valeur quand on considère le prix qui a été payé par Jésus-Christ. Je vais le répéter, ça. Il faut croire que nos vies ont une très grande valeur si le prix de la rançon qui a été payé, c'est la croix. Parce que ça a coûté cher. Ça a coûté très cher. Ça a coûté, entre autres, que Jésus descende du ciel dans lequel il était, dans la gloire céleste, pour venir faire du camping parmi les hommes. Ça a l'air qu'il n'y a pas de maringouins au ciel, mais il y en a sur terre. Il s'est dépouillé lui-même devenant, oui, 100% Dieu, mais également 100% homme. Ça lui a coûté cher. Il a patienté 30 ans. Et on voyait ça avec notre petit groupe vendredi dernier. Il a patienté 30 ans avant d'exercer quelconque ministère. Mais non seulement ça, il a vécu l'injustice, la trahison, l'indifférence, le mépris, les insultes, l'idée d'être incompris. Mais le prix le plus grand qu'il a payé de tous, c'est celui de son propre sang, qui confirmait sa mort. Ce sang qui a coulé à la croix. Et je fais un rappel de ce qu'on a déjà vu. Judas a livré Jésus aux prêtres. Les prêtres ont livré Jésus à Pilate. Pilate a livré Jésus aux Romains qui l'ont crucifié. Alors, c'est qui le coupable? C'est qui a tué Jésus? Et on se rend compte que c'est nous tous, c'est toute la gang. Mais il y a un gros astérix à côté. On peut dire que c'est nous, mais non. Vous savez pourquoi? Je vous l'ai dit la dernière fois. C'est parce que Jésus s'est livré lui-même. Personne n'avait le pouvoir sur sa vie. Alors, quand on regarde le prix qui a été payé, ce n'est pas un prix qui a été subi par les hommes. C'est un prix qu'il a choisi de payer lui-même. Il s'est livré lui-même. Il a payé lui-même de ses poches la rançon. Il n'y a personne qui l'a forcé à le faire. Et là, on fait comme, oh, wow, wow, wow. Merci Seigneur. Et ça nous parle de l'amour extraordinaire de Dieu. Puis je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à ce moment-ci. Ça parle de l'amour extraordinaire de Dieu parce que tout ce que je vous ai parlé avec l'idée de Dieu qui vient pour effacer le péché, Dieu qui vient pour détourner la colère et le jugement sur nous, on pourrait penser quelque chose qui n'est pas la vérité et je vous explique, OK? C'est une vérité que j'aimerais que chacun saisisse ce matin, puis je pense que ça prend, oui, de la compréhension, mais que Dieu puisse révéler ça à nos cœurs. En fait, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour lui permettre de nous aimer. Dieu n'a pas envoyé, je le répète, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour permettre que Dieu puisse nous aimer. Dieu a envoyé son Fils parce qu'il nous aime. Et quand je vous disais tantôt que le mariage, l'amour dans le mariage, c'est d'aimer malgré les défauts, vous comprenez que c'est ça qui est en train de se passer ici. Jésus n'a pas dit, « OK, je vais aller sur la terre, mon Père dans le ciel, là, je vais aller sur la terre, là, puis ils vont devenir plus aimables parce que je vais leur accorder le pardon. » En fait, c'est parce qu'il nous aimait parfaitement que le Père a accepté d'envoyer son Fils et que le Fils a accepté d'être livré lui-même alors que personne n'avait le pouvoir sur sa vie. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que Dieu puisse nous aimer. C'est parce qu'il nous aime qu'ils se sont donnés. Dans l'image du sanctuaire, on trouve le moyen par lequel Dieu permet le salut. Dans l'image de la rédemption, on découvre la motivation de Dieu. On découvre le pourquoi. On découvre le cœur. Et ce cœur-là, bien plus qu'une transaction spirituelle, on découvre le prix payé, le prix qui est attaché à ta vie. S'il y avait une petite étiquette là, avec un tag en arrière, là, ce serait quoi le prix de ta vie? Puis c'est une bonne question à se poser quand on regarde la croix. Parce que, vous savez, il y a des gens qui vivent ici et qui vivent comme s'il n'y avait pas une grande valeur. Toute leur vie est basée sur essayer d'augmenter leur propre valeur, alors que Christ a parlé bien fort à la croix. Il n'a peut-être pas dit le mot, genre à la croix, dernier souffle, « Je vous aime tellement fort, vous êtes précieux, bye! » C'est pas ça qu'il a fait. Mais sa mort parlait encore plus fort que ça. Et ça parle du prix qui est attaché à ta vie. Sais-tu que quelqu'un a payé la rançon pour te libérer? Il l'a payé pleinement. Il l'a payé pleinement. Et si demain matin, et on le souhaite à personne, quelqu'un rentrait chez vous, et il y a des pays dans lesquels c'est beaucoup plus probable qu'au Canada. Je ne sais pas que ce n'est pas possible, mais bon. Si quelqu'un rentre chez vous par effraction demain, en kidnappe un de la gang, il s'en va au loin. Finalement, dit, pour revoir cet être cher, ça va te coûter 20 millions. Là, la famille se regarde et dit, OK, on sort les calculatrices. OK, comme épargne ou comme montant disponible, on a 200 000 piastres pour payer une rançon de 20 millions. Ça, c'est 1 % pour ceux qui aiment les statistiques. On a 1 % de la somme. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ils se mettent à travailler fort. La famille commence à parler à gauche, à droite, commence à prier, commence à jeûner, à essayer de trouver un moyen. Puis finalement, un mois plus tard, ce 20 millions-là, ils ramassent et donne le 20 millions, puis la personne est libérée. Et vous ramassez à Noël autour de la dinde avec le ragoût ou toute autre tradition de Noël. Et cette personne-là qui a été achetée pour 20 millions s'assoit autour de la table. Imaginez que c'est vous. Est-ce que vous avez besoin que les autres vous parlent de la valeur que vous avez à leurs yeux? Je pense que ça parle, hein? Le montant parle plus fort que des mots. C'est hautement improbable que tout ça arrive et je le souhaite à personne. Mais c'est ce qui est arrivé à la croix. Ce qui est arrivé à la croix, c'est que Jésus a payé le prix fort pour que tu saches que ta vie avait bien plus de valeur que ce que les autres pourraient bien penser. Alors, quand on se rassemble ici, puis on va prendre la communion dans un moment, qu'on se rassemble ici comme des rachetés du Seigneur, sachant que Christ a payé cette rançon-là par amour pour nous, vous savez quoi? On a des raisons de sourire quand on se rassemble. Parce qu'on a cette preuve indéniable que Christ nous aime bien plus qu'on peut l'imaginer. Est-ce que ça valait 20 millions? Est-ce que ça valait plus? C'était son propre sang, lui, qui était parfait. Alors, on peut être reconnaissant devant le Seigneur en sachant, « Wow! Seigneur, tu m'as racheté! Tu as racheté cette rançon-là! » T'as racheté cette rançon-là. J'aimerais qu'on puisse prendre la communion comme moment d'appel devant le Seigneur ce matin. Lorsqu'on regarde la croix, lorsqu'on regarde, oui, autant au fait que Dieu a placé, Dieu a tout fait. Ceux qui n'en ont pas, je vous invite à lever la main. Ça a l'air qu'il y a des échantillons qui n'avaient pas de pain dedans. Si vous n'avez pas de pain, levez votre main. On va vous en donner un autre. Mais lorsqu'on regarde cette croix, c'est comme « Wow! Quel amour! Quel amour immense! » Je vous donne une illustration. Vous connaissez le verset Jean 3,16, on l'a lu tantôt, hein? On serait capable de le réciter probablement, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et j'aimerais vous lire juste le verset qui vient avant ça. Et je vais le prendre sur mon cellulaire, je ne l'ai pas dans mes notes. Le contexte, c'est que les Juifs, les Israélites sont dans le désert. Ils ont été sortis de l'Égypte par des miracles incroyables, mais ils chialent encore leur vie, ils murmurent. Et puis, qu'est-ce qui se passe? La colère de Dieu se manifeste. Et puis là, il y a des serpents qui se mettent à les mordre et il y en a plusieurs qui meurent. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Moïse qui décide que lui, il allait prier pour le peuple, il allait intercéder pour le peuple. Et ce qui se passe, c'est que Dieu lui dit, regarde, prends un bâton puis place un serpent autour du bâton et puis tu vas te promener dans le camp puis tous ceux qui vont regarder ce serpent des reins-là, ils vont avoir la vie sauve. Et ça nous amène à Jean 3,15. Jean 3,14, excusez-moi. Et ça va dire la chose suivante. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé au bout d'un bâton, au bout d'une croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ensuite, il y a le passage que tout le monde aime. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je vais utiliser la croix. Merci, Guy. Et l'image est la suivante, c'est que Jésus a accompli pleinement ça. Peut-être vous dites, hey, moi ce matin, je suis comme... Là, j'étais un peu scié, je pensais que j'étais une bonne personne, je pensais que j'étais right devant Dieu, je pensais que j'avais tout. Mais de la même façon que Moïse va lever le serpent, de la même façon, tous les gens sur la terre sont appelés à regarder cette croix, à ce Jésus qui a été élevé au-dessus sur un bâton. Et tous ceux qui allaient croire en ce Jésus qui était crucifié, tous ceux-là seraient comme les Israélites que les serpents les ont mordus, mais que ça ne leur faisait pas d'effet, puis qu'eux, ils continuaient leur marche. Les Israélites, vous savez qu'est-ce qui se passait? Ceux qui ont survécu continuaient leur route vers le pays promis. Et tous ceux qui regardent à la croix, qui regardent à Jésus à la croix, sont en chemin vers cette espérance éternelle du ciel, vers cette vie éternelle. Alors, c'est une image, mais c'est une image qui nous montre à quel point est-ce que la croix de Jésus, c'est pas venu d'une idée du ciel, un caucus à trois de la Trinité dans le ciel en disant « Ils sont malades, ils pêchent tout le temps, qu'est-ce qu'on va faire? » Puis là, « Hey, j'ai une idée, on pourrait envoyer la foudre. » « Non, c'est pas une bonne idée, on pourrait envoyer la croix. » « Ah oui, bonne idée. » Non, c'était prévu depuis le départ. Jésus n'était pas d'un plan catastrophe. Jésus venait accomplir pleinement sa loi, ce qu'il avait donné. Alors peut-être qu'il y a des gens ici, vous dites, je comprends mieux pourquoi est-ce qu'on se met une croix dans le cou. Je comprends mieux pourquoi qu'on est fier de la croix. Parce que justement, cette rançon-là a été payée. Et je vous invite ce matin à... Si peut-être vous n'avez jamais décidé de suivre Jésus comme on l'a partagé tantôt avec le chant. L'image de regarder à la croix et de voir ce Jésus crucifié, ceux qui avaient foi et qui ont regardé le serpent des reins ont été guéris et conduits par la suite vers la terre promise. Ceux qui placent leur confiance en Jésus, qui regardent à Christ crucifié, ont cette vie éternelle-là en réserve. Ça paraît tellement simple, mais ce l'est. Et s'il y a des gens ici qui ne l'ont pas fait encore, alors qu'on va prier, je vous invite à être de ceux qui disent, « Seigneur, je crois. Seigneur, je regarde à cette croix et je crois que cette colère-là, ce jugement-là, il était pour moi, mais qu'à cause de la croix, je peux être pur. Je peux être saint. Je peux être digne. Je peux passer de la rébellion à l'amour envers toi. » Et vous savez, c'est probablement la décision qui a marqué le plus ma vie. C'est la décision que j'invite chacun à faire. Parce que cette croix de Jésus parle tellement fort. Elle parle tellement fort sur qui on est, mais sur qui Dieu est. Et s'il y en a qui disent, hey, « Moi, je veux donner ma vie au Seigneur ce matin. Je veux remettre les armes. Je veux changer d'équipe. » Je vais arrêter de me battre contre Dieu, puis je vais être de son côté. Bien, je vous invite à le faire dans votre cœur et d'en parler à quelqu'un avec qui vous êtes ou venir me voir également après le culte. Ça va me faire plaisir de prier avec vous. Puis ce matin, on va prendre le repas du Seigneur en disant, Seigneur, merci pour la croix. Merci pour ton sacrifice. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as aimé tellement que tu as été jusqu'au bout. Amen. Dans 1 Corinthiens 11, ça va dire la chose suivante. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
Est-ce qu'on peut prendre le pain ce matin en mémoire du corps brisé sur la croix de Jésus-Christ? Merci d'avoir payé le prix le plus fort pour ma vie, Seigneur. Merci. De même, après le repas, Jésus a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Est-ce qu'on peut prendre la coupe en souvenir du sang qui confirme la mort, mais également cette nouvelle alliance en lui? Amen. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier pour cette croix si précieuse. Cette croix qui est l'aide dont nous avions besoin pour s'approcher de toi. Et quel privilège d'être proche de toi, Seigneur. Quel privilège d'avoir une vie qui est dirigée par toi. Quel privilège, Seigneur, de savoir que notre avenir est assuré et qu'entre tes mains, Seigneur, on peut tout laisser parce que tu es le maître de l'univers. Seigneur, nous voulons ne pas être de ceux qui sont ingrats, Seigneur. Au contraire, nous voulons être de ceux qui sont joyeux parce que tu as payé cette rançon en entier pour moi, pour mes frères et sœurs à travers le monde. Alors, Jésus, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te remercions pour l'œuvre puissante à la croix. Et nous te disons merci de ce que nous pouvons nous souvenir ensemble de cet événement si important. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen.